Alors, venons-en à cette polémique, parce que je vois que vous brûlez d'impatience d'en parler. L'intéressé Damien Abad est toujours au gouvernement, et en début de semaine, à la mairie de Saint-Jean-le-Vieux, le ministre des Solidarités a réuni la presse et a pris la parole.
Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Écoutez, un homme innocent doit-il démissionner? Je ne crois pas.
Alors, il pose la question... Et il apporte la réponse. Je ne le crois pas. Il reste prudent, mais ça veut quand même dire qu'il reste en place, Jacques Serret.
Bah oui, il reste en place et la ligne, pour l'instant, s'il y en a une, parce qu'elle est quand même relativement floue au sein de l'exécutif, la ligne, c'est tant qu'il n'y a pas d'enquête préliminaire d'ouverte, il n'y a pas de raison qu'il quitte son poste. La question maintenant, c'est jusqu'à quand cette ligne peut tenir. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'enquête préliminaire ouverte, mais si demain il y a d'autres témoignages et qu'il n'y a toujours pas d'enquête, voilà, ça peut commencer à devenir assez lourd pour le gouvernement Borne.
Il n'empêche que, même à ce stade, certains observateurs ont nommé Gérald Darmanin, qui était dans une situation pas similaire, mais en tout cas proche, il y a quelques temps.
Et contrairement à Gérald Darmanin, Damien Abad, il n'a pas un poids politique véritablement aujourd'hui dans le gouvernement. Il a
plus de soutien, il a plus... Petit ministre, donc moins grave?
C'est pas que c'est moins grave, mais il a besoin d'avoir un poids aussi pour exister, pour avoir des alliés. Et aujourd'hui, Damien Abad, c'est pas un homme seul. Il a quitté ses anciens amis d'LR. Aujourd'hui, il se retrouve dans une nouvelle équipe, mais c'est pas encore...
C'est un peu comme on arrive en classe et quand on est petit, on connaît personne.
Et on vient de déménager,
de
c'est un peu difficile. Ouais. Voilà. C'est un peu la situation de Damien Abad aujourd'hui.
Ouais. Emmanuel Sophie du JDD.
Ouais, alors moi je trouve l'erreur, c'est pas tant de le laisser que de l'avoir nommé. C'est-à-dire qu'on visiblement il y avait des sous-entendus, des bruits de couloir. Même si les républicains aujourd'hui ils disent oh mais nous on savait pas vraiment, il n'empêche que quand même on en avait entendu parler il y a quelques années, on l'avait convoqué. Bon, ses propos nous avaient rassurés.
Mediapart, c'est quand même quelques témoignages, notamment celui d'Aurélie Pradier qui le coince dans un couloir en disant attends, maintenant tu m'expliques.
Voilà, tout à fait. Voilà. Ouais, maintenant faut un peu se calmer quoi. Aurélien Pradier, c'est ce qu'il affirme. Donc, sachant tout cela, c'est un peu problématique aujourd'hui pour le gouvernement, enfin pour Emmanuel Macron qui faisait de cette prise Abad dans le camp LR une prise de guerre, de dire bon bah hop, je le démets de ses fonctions, alors qu'en fait il savait sans doute qu'il y avait ces rumeurs là et qu'on l'a quand même nommé. C'est là ce qui est problématique, c'est d'avoir fait ce casting là sans doute un peu en connaissance de cause, en se disant bah peut-être ça va se dégonfler, ou peut-être même qu'il perdra sa circonscription. Et comme la règle établi par l'Élysée, c'est que en cas de défaite aux législatives, vous quittez le gouvernement. Peut-être qu'ils font ce pari de la défaite pour Damien Abad pour pouvoir s'en débarrasser entre guillemets.
Gilles Martin Chauffier pour Paris Match. Ce qu'il y a d'assez terrible pour ce gouvernement, c'est que à peine formé, il y a cette polémique et on ne parle que de ça.
D'abord, il faudrait quand même dire Damien Abad, une prise de guerre pour Emmanuel Macron. Calmons-nous.
Vous êtes moqueur.
Petite prise de guerre qui a exaspéré LR, mais enfin la France entière.
C'était quand même le chef des députés LR.
C'était pas une des stars de la politique française. C'est pas une grosse prise de guerre. En revanche, ce qui est assez injuste, quand vous dites, il a pas de poids politique, il va pas pouvoir se défendre. La chance qu'il a d'une certaine manière dans son malheur et dans le malheur des jeunes femmes qui l'ont croisé, c'est que il est symbolique d'une époque, de notre époque, Damien Abad. On en est à la concurrence pénitentielle. Qui souffre le plus? Est-ce que c'est les handicapés? Parce que c'est une force énorme. Quand la jeune femme, la dame qui s'occupe de lui témoigne, elle dit, mais il peut rien faire, il peut pas violer, il peut pas porter une femme, il peut pas la déshabiller.
Il l'a dit lui-même,
Et on se dit en même temps, mais le soir même où il est nommé, immédiatement, il y a une espèce de rush de femmes qui l'accusent. On veut dire, calmons-nous tous. On a vu dire, la société devient hystérique. Et je trouve que Damien Abad, de ce côté-là, et je ne sais pas du tout, et peut-être qu'il est coupable, et puis à ce moment-là, il payera, etc. Mais je trouve qu'on est d'une violence et d'une brutalité qui est ahurissante dans cette affaire.
Emmanuel,
vous dites hystérique, c'est par rapport à quoi? Un procès en transparence, en exemplarité?
Une mise en culpabilité évidente, alors même qu'on ne sait pas grand-chose du dossier.
Oui, enfin, il y a deux plaintes qui ont été quand même déposées, certes classées sans suite, parce qu'on sait très bien que les preuves à établir dans ce genre de situation sont extrêmement difficiles. C'est parole contre parole. Maintenant, quand vous êtes ministre des Solidarités, de l'Autonomie et du Grand Âge, donc c'est un portefeuille extrêmement social, c'est un dossier qui va, je pense, le poursuivre pendant quelques mois. voire quelques années, s'il reste toujours au gouvernement. Mais là, ce que vous dites, c'est que vous êtes en train de directement de mettre en doute la parole de ces deux victimes qui se sont confiées dans Mediapart.
Je mets en doute les paroles de toutes les victimes, pas de ces deux-là, de toutes les
victimes. Et moi, je ne me place pas systématiquement du côté des victimes, mais je ne me place pas non plus systématiquement du côté des présumés
Je n'innocente pas, d'accord.
C'est très très difficile. On marche sur des œufs, nous, les médias, quand on parle de cette affaire, c'est extrêmement difficile. Jacques Serret, justement, à propos de médias, et côté court, j'allais dire, côté court de Matignon, de l'Élysée, salle des quatre colonnes, l'Assemblée, c'est quoi Radio Moquette concernant Damien Abad? C'est quoi les bruits de couloir? Qu'est-ce qu'on dit à propos de ça? Est-ce qu'on se tait? Est-ce qu'on est prudent? Est-ce qu'on n'est pas prudent? Qu'est-ce qui ressort de cette histoire?
Bah, côté LR, on a plutôt tendance à dire on savait, voilà.
Et du coup, on est embêté. On est très embarrassé.
Ils l'ont nommé président du groupe. C'est incroyable de venir nous dire maintenant. Voilà. On savait, on l'a mis en garde, et il le nomme président du groupe alors que personne en France ne le connaissait. LR a beau yeux de dire maintenant.
C'est
vraiment un coup de poignard dans le dos de ce pauvre Abad qui n'avait pas besoin de ça en plus.
Ça, c'est Gilles-Martin Chauffier qui vient de parler de Paris Match. Jacques Serret d'Europe 1.
On n'est pas surpris. Et de l'autre côté, côté LREM, côté marcheur, c'est l'embarras, tout simplement. On sait pas quoi faire de ce nouvel arrivant dans son équipe. À la fois, on n'est pas dans la défensive.
C'est le cadeau empoisonné.
C'est le cadeau empoisonné
pour Damien Abad lui-même aussi de se retrouver. Voilà.
Totalement. Donc aujourd'hui, la seule solution pour Damien Abad, c'est plutôt d'être élu et très bien élu aux législatives. C'est un peu sa seule porte de sortie aujourd'hui.
Est-ce qu'on comprend pourquoi Damien Abad ne prend pas la décision de démissionner lui-même? Parce que ça le rendrait coupable directement?
Évidemment, c'est un aveu. Je ne sais pas si jamais ça arrive à quiconque dans cette pièce, quitter ou alors c'est reconnaître une part de responsabilité, une part de culpabilité.
Est-ce que c'est aussi automatique? Attendez, moi je suis un homme d'honneur, je vous dis que je ne suis pas coupable, mais je démissionne parce que je veux éviter toute polémique.
Mais ça engage la loyauté que vous pouvez avoir vis-à-vis du président, de la première ministre qui vous nomme. Estimez qu'aujourd'hui, ça entache l'action du gouvernement. Et donc là, par devoir de loyauté, vous vous dites, je m'en vais. Mais qu'est-ce qui lui resterait? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui lui resterait? Aujourd'hui, c'est sa carrière politique qui est menacée.
Ah, ça y est, je sens qu'on va se foutre de ma gueule. Gilles-Martin Chauffier.
Pierre de Villeneuve, avec particulièrement des
points.
On n'est plus au 18e siècle, Pierre. S'il démissionne, évidemment, c'est comme un aveu de culpabilité. Alors qu'en plus, il vient d'expliquer, un homme innocent ne démissionne pas. Donc il ne va pas démissionner. Donc là, il met le parti du président dans une situation de blocage, parce que c'est lui qui empêche la situation d'évoluer. Mais objectivement, franchement, l'époque ne le comprendrait pas. Cette jurisprudence Balladur, elle est absurde d'une certaine manière, parce que finalement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont obligé de démissionner pour la plupart des mises en examen qui ont eu lieu n'ont débouché sur rien. Je parle pas des affaires sexuelles qui sont très embarrassantes et très graves parce que c'est vraiment des régressions sur des femmes. Mais la plupart des accusations qui ont eu lieu, des affaires financières, n'ont jamais débouché sur rien. Ils ont toujours été nettoyés. Et les ministres avaient dit, Strauss-Kahn avait été blanchi et les autres, etc.
Jacques Serret, on a parlé de LREM, de l'ambiance chez les LR. Côté opposition, à la fois chez NUP, ORN, est-ce qu'on sort le bazooka et on se dit tiens c'est le moment ou jamais, ou est-ce qu'on est justement assez prudent?
Et on est même très prudent et on sort pas le bazooka. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'il y a quelques jours c'est une autre affaire qui a éclaté du côté des Insoumis, celle de Taha Bouafs. Et donc du coup attaquer Abad, ce serait relancer la polémique Bouafs qui elle s'est éteinte il y a une dizaine de jours maintenant. Donc finalement c'est plutôt silence radio, alors qu'au final Jean-Luc Mélenchon se revendique comme le premier opposant d'Emmanuel Macron. Mais sur cette affaire-là, il ne monte pas du tout au front.
Et OPS, dissidents, etc., on les entend pas beaucoup d'ailleurs.
Très peu.
Mais vous remarquerez quand même que, même si on en est encore une fois, et je le disais tout à l'heure en début d'émission, on en est aux prémices du gouvernement Borne, on est aux prémices, et Emmanuel, vous le disiez, après tout, on a une feuille de route, on ne sait pas où on va jusqu'à présent. On ne parle que de ça. Ça a une emprise, j'allais dire, médiatique et politique, qui dépasse l'entendement.
Ouais, et puis c'est ennuyeux. Enfin, souvenez-vous, le président l'a à nouveau redit. Ce deuxième quinquennat, la priorité, c'est l'égalité femmes-hommes. Et ça, franchement, quand vous assistez au défilé, parce que là, il y a plusieurs centaines de personnes qui se sont réunies à Paris pour protester contre le maintien au gouvernement de Damien Abad, franchement, ça va les poursuivre. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y aura un texte ou une mesure brandie en faveur des femmes, on va rétorquer à la Première ministre. Mais regardez, vous avez Gérald Darmanin qui est toujours au gouvernement et Damien Abad.
Et ben voilà, l'égalité femmes-hommes, vous faites bien de le dire, puisque demain, justement à 18h15, notre invitée sera Isabelle Rome, l'entrante au gouvernement et qui s'occupe parfaitement, justement plutôt que parfaitement, parce que je ne sais pas pour l'instant, elle n'a encore aucun bilan sur le sujet. En tout cas, elle nous donnera sa feuille de route à elle, la ministre de l'égalité femmes-hommes, Isabelle Rome, qui sera là demain. Nous, on se retrouve dans un petit instant. On continue de parler des événements politiques de cette semaine, et maintenant cette fuite sur éventuellement des petits excès de vitesse qui seront, j'allais dire, absous de points de permis de conduire. À tout de suite.
La semaine politique. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.